Voilà, donc nous continuons. Évidemment, nous sommes partis de, comme vous savez, au début de la retraite, nous sommes partis du bon Dieu, tout simplement, méditer un peu ce qu'est Dieu, comment, pourquoi nous sommes ici-bas sur cette terre. Mais après, évidemment, il va falloir commencer à descendre dans des considérations plus pratiques, c'est-à-dire tout l'objet de vos méditations, Dieu, etc. Eh bien, comment ensuite, dans la vie concrète qui va vous attendre après cette retraite, eh bien, comment mettre en pratique cette vie chrétienne? Donc, vous cherchez certainement à être une femme chrétienne, la femme chrétienne, celle qui marche à la suite de Jésus-Christ et de notre Seigneur. Mais il y a toujours certainement encore en vous une partie de ce qu'on peut appeler la femme mondaine. Non pas la femme de la noblesse ou de bourgeoisie, c'est pas dans ce sens-là, évidemment, qu'on entend femme mondaine. Mais la femme du monde, dans le sens que l'entend notre Seigneur. Je ne prie pas pour le monde. Je leur ai donné votre parole, donc il parle des apôtres, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Donc le titre un peu de cette conférence, qui peut être surprenant au départ, femme chrétienne ou femme mondaine, il faut bien comprendre de quoi nous voulons parler. Le monde ici, c'est entendu évidemment comme l'ennemi de Dieu. Comme notre Seigneur, quand il parle du démon, il parle du prince de ce monde. Donc, si vous voulez, en vous, eh bien, il y a un petit peu ces deux parties. Je ne vais pas dire le docteur Jekyll et Mr. Hyde, c'est peut-être pas à ce point-là, mais il y a un peu en nous toujours ces deux choses. Si vous voulez, nous voulons être une chrétienne, vous voulez être une chrétienne vraiment unie au bon Dieu, mais en même temps, ben, il y a le reste, il y a le monde qui nous attire, si vous voulez. Donc il y a ce côté mondain, dans le mauvais sens du terme, qui est peut-être présent en nous. Donc votre but, comme le but à tous, c'est un jour d'aller au ciel, quoi, de voir le bon Dieu. Et comment vous y arriverez? Eh bien, tout simplement, en étant une femme chrétienne, tout simplement. Mais évidemment, nous avons nos ennemis sont là, ils ont un autre but. Bien sûr, l'ennemi principal, c'est le démon qui, lui, veut attirer les âmes à lui, pour ne pas être seul, malheureusement, en enfer. Donc, le monde, le démon, ensuite, l'autre ennemi, c'est le monde, évidemment, comme je viens de le définir, tel que l'entend notre Seigneur. Et puis, troisième ennemi, peut-être disons, un des pires, parce qu'il est en nous. C'est la concupiscence. Comme dit souvent quelqu'un, ce troisième ennemi, il est à l'intérieur, il est en nous. Donc c'est là le drame. C'est quand vous êtes dans une ville assiégée, eh bien évidemment vous combattez les ennemis extérieurs, hein, donc les ennemis qui veulent rentrer à l'intérieur. Mais si en plus vous avez à l'intérieur de la ville des espions, aïe aïe aïe, c'est beaucoup plus difficile parce que vous avez des traîtres. Des traîtres qu'il faut débusquer à l'intérieur. Eh bien, nous, les traîtres, c'est ce qu'on appelle notre concupiscence. Et on va en parler, ce sont évidemment les conséquences du péché originel. Alors, le but de ces ennemis, évidemment, c'est de faire de vous une femme mondaine. De faire de vous une femme mondaine pour vous détourner de Jésus-Christ. Alors, un peu le but de cette conférence, c'est pas de vous demander de choisir entre les deux. Est-ce que je veux être une femme chrétienne ou une femme mondaine? Parce que vous avez déjà choisi. Autrement, vous seriez pas là. Donc, vous avez déjà choisi, évidemment. Non, c'est de vous faire connaître vos ennemis. Et les pièges pour les éviter. Voilà un petit peu le but, comment je vois cette conférence. Bien vous faire connaître les pièges, comment vos ennemis vont vous y prendre pour vous faire devenir une femme mondaine. Je ne parlerai pas du démon en tant que tel. Bon, c'est le problème de la tentation, on vous en a peut-être déjà parlé, on en parlera peut-être encore. Mais surtout, je verrai comment les tactiques du monde et de notre concupiscence. Mais en espèce d'introduction, avant d'aborder le fond du problème, il me semble utile de rappeler un dogme fondamental de notre vie chrétienne. Parce que cette conférence, vous ne la comprendriez pas, ou disons les conclusions pratiques que l'on peut donner seront incompréhensibles si on ne se réfère pas à ce dogme fondamental de notre vie qui est le péché originel. Ne jamais l'oublier. Si on éclipse ce dogme tel qu'on le fait aujourd'hui, on ne comprend plus rien dans la vie chrétienne. On ne comprend plus rien de ce que nous demande l'Église. Alors essayons juste d'en redire rapidement quelques mots. Donc péché originel, d'abord c'est une vérité de foi. Donc vérité de foi qui, donc on en a parlé, qui nous a été révélée par Dieu. Donc c'est Dieu qui nous l'a révélée, qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce péché originel, c'est quelque chose d'historique. C'est de l'histoire. Ça s'est passé il y a quelques milliers d'années. Bon, là, évidemment, on ne sait pas le nombre précis des années, mais ça s'est passé. Réellement. C'est pas un conte pour des enfants sages ou je sais pas quoi. Non. Adam et Ève ont existé. Alors, les causes. Bon, je vous rappelle pas l'épisode, vous connaissez évidemment, donc cette désobéissance d'Adam et Ève, donc qui ont pris du fruit de cet arbre, alors que Dieu leur avait fait la défense. Quelles sont les causes de cette désobéissance? La cause fondamentale, quelle est la première raison qui les a poussés à enfreindre ce commandement de Dieu? Eh bien, c'est l'orgueil. L'orgueil est le démon l'a suscité, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme Dieu. Voilà ce qui les a motivés essentiellement pour prendre ce fruit. C'est-à-dire, ils voulurent s'égaler à Dieu. Et c'est ça, péché d'orgueil. Ensuite, si on précise chez chacun, ou chez Ève ou chez Adam, qu'est-ce qu'on voit en plus comme autre défaut? Chez Ève, on voit une curiosité et une sensualité. C'est écrit dans le texte de la Genèse, tout à fait. La femme vit que le fruit était bon à manger, agréable à la vue et désirable pour acquérir l'intelligence. Donc, vous voyez, il y a de la curiosité. Elle vit, elle regarde le fruit. Et plus elle regarde, plus le fruit lui paraît bon à manger. Donc ça, c'est la sensualité en même temps qui s'y met. Et le grand tort d'Ève, vous le savez, évidemment, et nous on se fait avoir aussi, c'est de discuter avec le démon. Elle a voulu discuter avec le démon. Eh bien, elle a perdu. Ça, c'est sûr. Quand on commence à discuter avec le démon, on est sûr de perdre. Parce qu'il est plus intelligent que nous. Il connaît nos faiblesses, et si dès le début on ne le repousse pas, alors là, évidemment, on perd. Donc, elle a discuté avec le démon. Vous voyez déjà, même chez Ève, qu'est-ce qu'on voit, ce qu'il ne faudra pas que nous fassions, nous. Ensuite, chez Adam, ce que lui reproche Dieu, c'est d'avoir écouté la voix de sa femme. Eh oui. Donc, c'est une complaisance coupable pour Ève, dont il écouta les suggestions. On peut imaginer le tableau. Hein. Peut-être qu'au départ, Ève arrive avec ce fruit, et puis Adam commence à lui dire, qu'est-ce que t'as là? Non, on va reposer ça. Oh non, écoute chérie, tu vois, il est beau, il me paraît splendide. Oh non, allez, va, on n'a pas le droit d'en manger. Oh non, écoute, non, comment tu m'aimes plus? Tu veux vraiment pas manger ce fruit? Et puis Adam a cédé, quoi. Bon, enfin, en tout cas, Dieu lui reproche d'avoir écouté la voix de sa femme. Bien. Parce qu'effectivement, là, il aurait dû, à l'occurrence, puisque c'était une action mauvaise, effectivement, il aurait dû exercer son rôle de chef en disant « Non, tu vas remettre ça, point, terminé. Tu m'écoutes, tu obéis. » Il y en a qui rient, je ne sais pas pourquoi. Là, au moins, il aurait dû faire, cette fois-ci, faire preuve d'autorité. Bien, donc péché originel, si vous voulez, c'est un péché grave de révolte contre Dieu. C'est surtout là l'essentiel. Comme les anges, comme les démons, si vous voulez. Lucifer, non serviam, je n'obéirai pas. Eh bien, c'est pareil. C'est exactement ce péché de révolte. Ils veulent être Dieu. Donc les conséquences, perte des dons surnaturels, donc évidemment la grâce, perte des dons préternaturels que Dieu leur avait donnés en plus, donc ce qui les a conduit bien à souffrir, à mourir, concupiscence, c'est-à-dire révolte des sens contre la raison, et puis l'ignorance. Donc tout ce que nous connaissons par cœur maintenant, puisque nous le subissons encore. Et comme c'est un péché de nature, c'est-à-dire comme Adam a péché en tant que chef de l'humanité, eh bien ce péché se transmet à toute la race humaine. Si vous voulez, comme la source empoisonnée, eh bien se transmet au fleuve qui coule. Bien sûr, sauf notre Seigneur était Dieu et Notre-Dame qui en a été préservée. Donc si on élimine ce dogme, tout s'écroule. Donc que vient faire notre Seigneur ici-bas? S'il n'y a pas de péché originel, qu'est-ce que vient faire notre Seigneur ici-bas? Passer quelques années de vacances? Je pense quand même on est mieux au ciel qu'ici-bas. Donc il n'y a pas de rédemption, donc notre Seigneur n'est pas Dieu, donc voilà, tout s'écroule. Donc toujours avoir en mémoire un petit peu ce péché originel, ces conséquences du péché originel. Comme disait un vieux prêtre, j'ai dit, au péché originel, ça se résume, c'est très simple, c'est une pomme, deux poires et beaucoup de pépins. Donc c'est vrai. Bon, une façon de voir les choses. On a entendu une conférence de Monseigneur Lefebvre, justement nous rappelant un peu ses conséquences du péché originel. Je vous les rappelle aussi, il en parle toujours dans son livre, son testament spirituel, itinéraire spirituel. L'acquisition de la sainteté nécessaire au salut de nos âmes n'est pas chose simple. En effet, notre expérience quotidienne et l'enseignement de l'Église nous apprennent que la grâce du baptême, bien qu'elle nous rende la grâce sanctifiante par l'effusion de l'Esprit-Saint et nous libère du péché originel et de la présence diabolique, ne nous libère pas de toutes les conséquences du péché originel. Ces conséquences expliquent pourquoi notre vie spirituelle prend l'allure d'un combat spirituel qui dure toute la vie d'ici-bas. Cet enseignement est fondamental et préside aussi à tout notre apostolat. Nous demeurons des malades et avons besoin du médecin de nos âmes et des secours spirituels qu'il a prévus. Ensuite, eh bien, il cite saint Thomas d'Aquin. La sainteté originelle a été perdue par le péché du premier homme. C'est pourquoi toutes les forces de l'âme demeurent dans une certaine mesure destituées de leur fin propre par laquelle elles étaient ordonnées à la vertu. Et cette destitution s'appelle la blessure de la nature. En tant que la raison est destituée de son ordre au vrai, c'est la blessure de l'ignorance. En tant que la volonté est destituée de son ordre au bien, c'est la blessure de la malice. En tant que la force est destituée de son ordre aux choses ardues, c'est la blessure de l'infirmité. En tant que la concupiscence est destituée de son ordre à ce qui est délectable, mesuré par la raison, c'est la blessure de la concupiscence. Et dans sa première épître, saint Jean confirme cette vérité. Tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, orgueil de la vie. Ces quatre blessures touchent nos quatre vertus cardinales et ainsi provoquent en nous un désordre continuel. Voilà, donc notre vie chrétienne eh bien, va consister à lutter un petit peu contre ces ennemis spirituels, la concupiscence et le monde. Alors j'aborde en première partie donc cette lutte d'abord contre la concupiscence. Et nous verrons, deuxième partie, lutte contre le monde. La lutte contre la concupiscence. Donc, vous venez d'entendre la citation de saint Jean, donc la première épître de saint Jean, chapitre 2, verset 16. Tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, orgueil de la vie. Alors, voyons d'abord concupiscence de la chair. On entend par cela, eh bien, l'amour désordonné des plaisirs des sens. Bon, rappelons-nous que, effectivement, le plaisir n'est pas mauvais en soi. Dieu, effectivement, le permet en l'ordonnant à une fin supérieure, qui est le bien honnête. Donc, si Dieu attache le plaisir à certains actes bons, c'est pour faciliter ces actes et ainsi nous attirer à l'accomplissement du devoir. Donc, goûter le plaisir avec modération et en le rapportant à sa fin, qui est le bien moral et surnaturel, n'est pas un mal. Bon, prenons un exemple. Dieu a attaché un plaisir au fait de manger. Bon, eh bien, quand vous mangez et que vous en éprouviez un plaisir, ce n'est pas un mal. En effet, Dieu a permis ainsi pour nous faciliter cette action qui est indispensable pour notre vie. en soi, que vous aimiez manger de bonnes choses, en soi, c'est pas un mal. Alors là, où va arriver la gourmandise? C'est précisément, ça va être un désordre. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, manger que pour le plaisir. Ou alors, on va manger plus que nécessaire. Dans ce cas-là, effectivement, on va chercher d'abord le plaisir. Et là, donc, il y a un désordre, donc il y a une faute morale. Mais en soi, le plaisir n'est pas mauvais, puisqu'il est attaché à une chose qui est bonne. C'est même un acte bon, puisqu'il tend à une fin bonne qui, en dernière analyse, est Dieu. Ben, il n'y a qu'à voir la maladie de ne pas manger, donc l'anorexie. Du coup, les personnes qui ont ce problème de santé, qui n'éprouvent plus ce plaisir à manger, elles dépérissent. Elles en meurent même. Certaines personnes en meurent. Donc, vous voyez, on voit que Dieu a attaché ce plaisir pour nous faciliter notre vie, tout simplement. Mais vouloir le plaisir indépendamment de cette fin, qui est la volonté de Dieu, qui est légitime, c'est un désordre, puisque on va contre l'ordre sage établi par Dieu. Et en plus, ce désordre va en amener un autre, parce que quand on agit uniquement pour le plaisir, eh bien, on est exposé à aimer ce plaisir avec excès. Et comme on n'est plus guidé par la fin, par le but, eh bien, on a une soif immodérée de ce plaisir. Donc, ça peut être le cas, effectivement, pour la gourmandise. Ensuite, vous savez, vous appliquez la même chose pour la génération. Mon Dieu a attaché aussi un plaisir pour cet acte de la génération. Eh bien, c'est pareil, c'est dans le même but, donc pour faciliter cette génération humaine. Mais le problème, c'est que souvent, ensuite, on va le chercher en dehors de ce qui a été prévu par Dieu. Donc, c'est là où il y a un désordre. Donc évidemment, cette concupiscence, donc cet amour désordonné des plaisirs des sens, se trouve évidemment dans la gourmandise, et évidemment tout ce qui s'oppose ensuite au sixième et neuvième commandement de Dieu. Donc sixième commandement de Dieu, c'est tous les actes contraires à la pureté, neuvième commandement, tous les pensées, désirs contraires à la pureté. Cela peut exister aussi, même chez des gens mariés évidemment, parce que dans le mariage, cette concupiscence peut entraîner la violation des lois du mariage, évidemment. Par exemple, par l'usage de la contraception, voire même qui peut aller jusqu'à l'avortement, parce qu'on considère dans ce cas-là l'enfant comme un gêneur, quelqu'un qui nous gêne. Je pense que, évidemment, vous êtes bien au fait de tout cela, mais il faut se tenir en garde, parce qu'on est tellement, dans le monde d'aujourd'hui, tout paraît tellement normal, on justifie tout, que le démon, et notre faiblesse aussi, peut nous tenter jusqu'à, effectivement, avoir l'usage de ces moyens contre nature, et même de l'avortement. Malheureusement, ça peut exister aussi, même chez des personnes qui se disent traditionnelles, on peut avoir la tentation, et pourquoi pas même malheureusement le faire. Et d'ailleurs, c'est terrible parce qu'on voit, notre Monseigneur Lefebvre nous a parlé du Christ roi, là, on l'a entendu dans la conférence, mais on voit effectivement l'importance d'une loi dans la société. Et voyez cette loi en France de l'avortement, donc qui date de 75, ça fait quoi? Donc ça fait 30 ans, arrive à changer les mentalités. Autant au départ, quand cette loi est passée, il y a eu un combat, il y a eu des manifestations, c'était assez... malheureusement, les évêques n'ont rien dit, ça c'est lamentable. Mais disons, il y avait une certaine réaction, on considérait ça comme quelque chose contre nature, quand même, tuer un être innocent. 30 ans après, regardez un petit peu, parmi nos contemporains, quand vous regardez des sondages, vous avez beaucoup plus de personnes qui considèrent ça presque normal. Oui, c'est le droit de la femme, elle ne veut pas son enfant, de toute façon, c'est un amas de cellules, et puis c'est tout. Donc, on justifie. Et nous, il faut faire attention de ne pas se laisser prendre un petit peu par toute cette ambiance. Et c'est là où on voit l'impact d'une loi, d'une mauvaise loi. Et bien, comment elle arrive à changer les mentalités. Alors, quel est le remède un petit peu à cette concupiscence de la chair? Bien évidemment, c'est d'abord la mortification du plaisir sensuel. Évidemment, savoir se mortifier. Saint Paul nous le dit dans son épître aux Romains, chapitre 8, verset 13. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez spirituellement. Mais si par l'esprit vous mortifiez la chair, vous vivrez. Et là aussi, une bonne façon de mortifier un petit peu, c'est de pratiquer la vertu de tempérance. La vertu de tempérance, c'est la vertu qui fait que l'on use, conformément à la raison, des choses qui flattent les sens. Donc, c'est la raison qui domine, hein, qui domine précisément toutes ces choses qui flattent notre sensibilité. Et dans cette vertu de tempérance, on distingue une partie qui s'appelle la chasteté. Et la chasteté, elle soumet la concupiscence, donc ce désordre qui est en nous, elle soumet la concupiscence à la loi de la raison. Et ceci dans les divers états, hein, que ce soit l'état de virginité, ou l'état de mariage, ou l'état de viduité, c'est-à-dire l'état de veuvage. Donc la chasteté, effectivement, en fonction de notre état, si nous sommes dans un état de virginité, célibataire, eh bien nous apprend à dominer cette concupiscence. Dans l'état de mariage, cette chasteté nous permet de vivre selon les lois du mariage, telles que voulues par Dieu. Et puis dans l'état de viduité, eh bien, c'est la même chose, on retrouve cet état de chasteté parfaite. Et ensuite, à la chasteté aussi se rattache une autre vertu qu'on appelle la pudeur. La pudeur qui règle les actes extérieurs capables d'exciter au plaisir des honnêtes. Donc, voyez, vertu de chasteté et vertu de pudeur. En même temps, donc ces pratiques de vertu, donc cette tempérance, cette chasteté, cette pudeur, vont nous permettre précisément de combattre cette concupiscence. Et vous avez aussi une vertu annexe de la tempérance qui s'appelle la modestie. La modestie qui est cette vertu qui consiste à se maintenir dans la mesure et dans les limites convenables pour les mouvements intérieurs et extérieurs. Et la modestie extérieure, elle, va régler les mouvements du corps, le port des vêtements, par exemple. C'est elle qui va régler tout cela. Donc, je me permets juste de préciser un peu plus la vertu de pudeur, hein, qui, je pense, est importante. Parce qu'elle consiste, cette vertu, à éviter toutes les occasions d'impureté pour soi-même et les autres. Donc cette vertu comporte, je veux dire, une certaine réserve, une certaine retenue, une certaine modestie dans la vie tout entière, que ce soit nos pensées, que ce soit nos regards, que ce soit nos attitudes, que ce soit nos tenues, que ce soit nos lectures, que ce soit nos divertissements. Donc la vertu de pudeur englobe un petit peu toute notre vie. Et c'est elle qui va donner une certaine modestie dans toute notre vie. Et souvent, on appelle cette vertu de pudeur la prudence de la chasteté. La prudence de la chasteté. Donc, elle consiste, si vous voulez, à prendre des précautions. C'est celle qui va nous faire prendre des précautions, sans lesquelles, eh bien, il est pratiquement impossible de prévenir les passions désordonnées. Si on ne prend pas ces précautions, eh bien, ce sera très difficile de combattre nos passions désordonnées, chez nous-mêmes ou chez les autres. Alors évidemment, la vertu de pudeur, comme toute vertu, comporte un juste milieu. On peut pécher par excès. C'est ce qu'on appelle la pudibonderie, ou voire le puritanisme. Bon, je crois que malheureusement, c'est un excès qui n'est pas trop à redouter de nos jours. Bon, enfin, ça peut exister. Ça peut exister. Ça, je pense, c'est surtout un peu dans les pays qui ont une mentalité protestante. Et je pense surtout à l'Amérique du Nord. On retrouve ça même peut-être chez nous, enfin un peu chez nos fidèles, un peu cet excès de, effectivement, tendance au puritanisme. C'est-à-dire, il y a une espèce de décorum extérieur. Donc, effectivement, oui, presque un excès. Mais souvent, quand c'est comme ça, ensuite, c'est juste une façade, quoi. Et puis derrière, malheureusement, ça ne suit pas, quoi. Bon, mais je pense qu'ici, ça ne nous guette pas trop, ça. Par contre, évidemment, on peut manquer par défaut, et ça, c'est ce qu'on appelle le manque de pudeur. Et je pense que malheureusement, il est beaucoup plus fréquent aujourd'hui. Alors évidemment, il existe aussi une pudeur instinctive, qui est une espèce de disposition naturelle, qui constitue d'ailleurs le meilleur fondement de la vertu. Bon, ça, il y en a qui l'ont plus ou moins, cette pudeur instinctive. Alors je pense en tout cas, vous voyez, dans ce domaine-là, il est important de cultiver cette vertu, hein, surtout dans ce monde d'aujourd'hui. Donc pour nous-mêmes, pour nous préserver. Et en même temps, je pense, je me permets, puisque peut-être la plupart vous êtes ou mère de famille ou grand-mère, ou peut-être vous vous marierez, je ne sais pas, mais veillez aussi à l'éducation de la pudeur chez l'enfant. Et c'est important. Déjà par l'exemple, déjà par votre exemple. J'allais dire, même dans nos familles, peu traditionnel, encore une fois, souvent, on peut recevoir les miasmes du monde. Bon, ayant été quelques années, donc ayant dirigé une école quelques années, eh bien, c'était flagrant, on le voyait ça dans les enfants, par exemple, dans l'internat. Je veux dire, on voit les enfants qui sont habitués à se comporter d'une manière pudique. Donc, on voit qu'il y a une éducation qui est donnée dans la famille. Même encore une fois, si c'est pas forcément des saints, je suis tout à fait d'accord. Mais on voit qu'il y a déjà une habitude. Et puis, on voit des enfants, par contre, sans leur faute, hein, mais qui n'ont pas du tout cette habitude. Donc, on est presque obligé, enfin, on est même obligé de leur apprendre des habitudes de pudeur. Surtout en internat, évidemment, dans les dortoirs ou ailleurs. Donc, on se dit, mais, il y a dans des familles, ça se fait pas, quoi. Il y en a qui n'apprennent pas ça à leurs enfants. Et c'est là où c'est, je dis, c'est quand même un peu incroyable, quoi. De temps en temps, ça manque du bon sens, quoi. Bon, je veux pas vous troubler, je veux pas vous, mais on est quand même surpris. On a quelques exemples. Bon, enfin, je sais pas, pour éduquer un enfant à la pudeur, par exemple, eh ben, les parents ne prennent pas leur bain avec les enfants, par exemple. Ça me paraît normal, mais il y a des choses qu'on est obligé de redire. Et comme parrain, ça me paraît pas normal. Je vous dis, je parle pas des gens du monde extérieur qui font effectivement n'importe quoi. Donc, je parle pas de ça. Je parle d'exemples que j'ai pu avoir la connaissance des familles qui viennent dans la tradition. Comme ça me paraît pas normal non plus qu'une sœur prenne son bain avec son frère. La sœur, elle a 12 ans, le frère a 8 ans. Ça me paraît pas normal qu'ils prennent leur bain ensemble. Bah, si vous voulez, c'est pas une éducation à la pudeur. Parce que dans ce cas-là, comment après, si vous voulez, bah, il voit pas le problème, il voit pas le mal, etc. Donc, il n'y a pas cette réserve, cette certaine retenue qui doit exister pour nous préserver, qui va préserver notre vertu de pureté. Et je me rappelle, le père Marciac nous disait, ce missionnaire, on reconnaissait un village, donc dans la Brousse, mission, un village qui avait été christianisé, donc le missionnaire était passé, par rapport à un village païen. Et quelle était la différence? Eh bien, le village chrétien, les gens étaient habillés. Et le village païen, les gens ne sont pas habillés. Il disait que c'était la grande différence. On voyait effectivement, dans ces villages christianisés par les missionnaires, les gens étaient habillés. Alors que dans les villages païens, ils n'étaient pas habillés. Ouais, donc il disait ça parce que il y a une habitude, on pratique cette vertu. Je vous cite juste le père Calmel aussi à ce sujet-là, qui disait: Et comme la prise de conscience personnelle est grandement aidée par l'éducation, que les mères de famille se rendent compte enfin avec leurs tout-petits que la pureté commence à cet âge-là. Elle se prépare ou déjà se détruit par les habitudes qu'on leur donne de se tenir ou de s'habiller. Il ne s'agit pas d'être bégueule. Il s'agit de savoir que dans les attitudes qu'on fait prendre ou qu'on laisse prendre au tout-petit enfant, le vice ou la vertu sont déjà tracés et préformés, notamment l'impureté ou la pudeur. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qu'il faut former. C'est évident que l'enfant, avant l'âge de raison, à 4 ans, 3 ans, il n'y a aucune faute de sa part, si vous voulez. Mais c'est un problème d'éducation. On va lui apprendre cette vertu de pudeur. Parce qu'autrement, il n'aura pas cette habitude plus tard. Et ça lui sera beaucoup plus difficile. Comme vous lui apprenez à manger, à bien se tenir, dans ce domaine-là, c'est la même chose. Non, je crois, de la part des parents, il ne faut pas avoir non plus une fausse pudeur. Parce que, ça peut faire allusion, là c'est vraiment juste une parenthèse, parce que quand l'enfant grandit, il y a les fameuses lois de la vie, comme on dit, qu'il faut apprendre aux enfants. Alors les parents, il y a une fausse pudeur, on n'ose pas en parler, on n'ose pas parler de ces choses-là, on n'ose pas apprendre la pudeur aux enfants. Mais ça, c'est un service que vous ne leur rendez pas. Parce que ils l'apprendront de toute façon. Mais c'est aux parents, c'est les parents qui ont la grâce d'État de faire ça. C'est pas aux prêtres. Malheureusement, de temps en temps, on peut être amené à apprendre ou à dire certaines choses. Mais c'est pas à nous, c'est aux parents de le faire. Il y a Pie XII aussi qui fait un discours à la jeunesse féminine d'Action catholique le 22 mai 1941. Voilà ce qu'il dit aussi, toujours dans ce domaine-là. Nous n'hésitons pas à ajouter, ô mère chrétienne, si vous saviez quel avenir d'angoisse et de périls intérieurs, de doutes mal réprimés, de hontes mal contenues vous préparez à vos fils et à vos filles en les accoutumant imprudemment à vivre à peine couverts. En leur faisant perdre le sens délicat de la modestie, vous rougiriez de vous-même et vous redouteriez la honte que vous vous faites à vous-même et le tort que vous causez à ces enfants que le ciel vous a confiés pour les élever chrétiennement. Donc, vous voyez, déjà, même Pie XII en 41 le disait. Alors, essayons de bien comprendre cela, parce qu'effectivement, on vit dans une époque de naturisme qui a complètement oublié les conséquences du péché originel dont je vous ai rappelé. Donc, je pense, en pratiquant ces vertus, c'est précisément un bon remède contre cette concupiscence. Et puis, pour que cette victoire un petit peu contre cet amour désordonné des plaisirs des sens soit complète, non seulement, évidemment, il faut renoncer aux plaisirs mauvais, de précepte, mais aussi, de temps en temps, sacrifier les plaisirs dangereux, qui conduisent presque toujours au péché. Comme on dit, celui qui aime le péché, il périra. Et plus ensuite, je crois, il faut savoir se priver aussi de plaisirs licites, qui sont permis. Mais afin de fortifier, d'affermir notre volonté contre l'attrait du plaisir défendu. Et pour cela, bien concrètement, savoir profiter des jours de pénitence de l'Église, par exemple. L'Avent, le Carême, les Quatre Temps, les Vendredis, donc tous ces jours un peu de pénitence, savoir aussi se priver de joies licites, de choses qui sont tout à fait permises, mais on s'en prive. Comme ça sera plus facile ensuite de lutter contre l'attrait des plaisirs défendus. Voilà pour cette concupiscence. Deuxième, concupiscence des yeux. Qu'est-ce que Saint Jean appelle dans la concupiscence des yeux? Elle comprend deux choses, la curiosité malsaine et l'amour désordonné des biens de la terre. Cette curiosité dont il est question, c'est un peu le désir immodéré de voir, d'entendre, de connaître ce qui se passe dans le monde. Non pas pour en tirer un profit spirituel, mais pour jouir de cette connaissance frivole. Donc on veut être au courant de tout. Comment ça s'appelle cette revue ? Point de vue et image du monde, je crois, un truc comme ça. Vraiment le truc par excellence. Il n'y a rien là-dedans, mais il y a des photos, alors on voit, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il disait ? Tous les gens du monde, c'est les mariages, les potins, les fiançailles, les machins, les trucs. Bref. Donc ça, cette curiosité, en gros, c'est on fait la concierge. On est au courant de tout. On veut être au courant de tout. Donc cela, évidemment, induit à quoi ? C'est quand on connaît plein de choses comme ça, on n'a pas envie de les garder pour soi. Donc évidemment, on va en parler. Donc si on en parle, ça va être le bavardage. Et puis le bavardage, c'est difficile de ne pas parler d'autrui, du prochain. Donc forcément, ça va être les médisances. Donc on va dire du mal qui est vrai, ça va être la calomnie, on va dire du mal qui est faux, etc. Donc ça entraîne eh bien, tous ces défauts qu'on dit être spécialement féminins. Bon, rassurez-vous, les hommes aussi savent bavarder, hein. Mais enfin bref, cela peut entraîner évidemment la partialité dans les jugements aussi. Et là aussi, vous avez une qualité qui est spécialement féminine, donc qui est une qualité que bon Dieu vous a donnée. Vous avez surtout une intelligence intuitive. C'est-à-dire que l'homme a plutôt une intelligence qui raisonne, on va plutôt raisonner, tandis que la femme, elle, plutôt intuitive, directement aux conclusions. Donc c'est une qualité qui est merveilleuse, je veux dire, précisément pour s'occuper des enfants, etc. C'est, je veux dire, vous devinez tout de suite ce dont l'enfant a besoin. Alors c'est vrai que vous comparez, par exemple, peut-être un jour avec votre mari, lui il voit rien, quoi. Comme vous dites, bon, il voit rien. Ah oui, parce que, bon, il crie, alors il faut raisonner, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, etc. Donc vous, d'instinct, claque. Bon, c'est vrai, c'est l'intuition, donc c'est une bonne chose. Donc c'est une qualité, mais comme toute qualité, il y a son défaut. Il y a les défauts d'une qualité. Et dans ce domaine-là, de la curiosité, justement, de vouloir tout savoir, votre défaut, c'est que si quelqu'un vous plaît, il a toutes les qualités. Et si quelqu'un vous déplaît, alors il a tous les défauts. Ça peut être un peu un piège. Dès que vous voyez un défaut chez quelqu'un, à la limite, vous voyez plus que ça. Donc, forcément, il est bon à jeter parce qu'il a tous les défauts, alors qu'il n'y a peut-être qu'un point. Ou inverse, dans ce cas-là, vous pouvez perdre un peu le raisonnement parce que vous voyez une qualité qui plaît dans une personne, vous voyez que ça. Et vous voyez plus le reste. Donc, cette curiosité, si on ne la combat pas, peut entraîner justement un peu cette partialité, hein, dans le jugement. Alors, le remède, eh bien, pour combattre un peu cette curiosité, surtout un peu mondaine, se rappeler que ce qui n'est pas éternel, eh bien, est indigne de fixer, de retenir l'attention d'êtres immortels comme nous. Donc, toujours se rappeler, oui, la figure de ce monde passe. Dieu seul demeure. Et donc, un jour, nous aurons à rendre compte de nos actions. Ensuite, Saint Jean parle de l'orgueil de la vie. Donc, tout simplement, ce qu'on pourrait dire, l'orgueil. L'orgueil qui, comme dit Bossuet, est une dépravation plus profonde. Par elle, l'homme livré à lui-même se regarde lui-même comme son Dieu par l'excès de son amour propre. Et cet orgueil, eh bien, va entraîner beaucoup de défauts. Par exemple, l'esprit d'indépendance, d'autonomie. On veut se soustraire à l'autorité de Dieu ou de ses représentants. Ça va entraîner l'égoïsme aussi, la vaine complaisance, on se délecte dans sa propre excellence. Comme si c'était pas Dieu qu'en était l'auteur. Cela va entraîner la vanité, par laquelle on recherche d'une façon désordonnée bien l'estime des autres, leur approbation, leur louange. Ce qu'on appelle la vaine gloire. Ça va entraîner la vantardise, qui incline à parler de soi, de ses succès. L'ostentation, qui cherche à se montrer, qui cherche à attirer l'attention publique par le luxe, le faste. Ça peut attirer aussi cet orgueil, l'hypocrisie, qui affecte les dehors de la vertu, mais sans soucier de l'acquérir. C'est-à-dire on donne une peinture extérieure, mais évidemment pas l'essentiel. Donc il faut faire attention parce que l'orgueil est vraiment le grand ennemi de la perfection. Grand ennemi de notre perfection. Parce qu'il dérobe à Dieu la gloire qui lui est due, évidemment. Et puis il est source de nombreux péchés. Péchés de présomption, on en a parlé, qui conduisent à des chutes lamentables, etc. Découragement, dissimulation, on résiste au supérieur, envie, jalousie à l'égard du prochain, etc. Donc vraiment, l'orgueil est la source de nombreux maux. Alors, si on essaie de voir peut-être un peu plus les défauts féminins, bien ça va vous pousser un peu à la vanité, évidemment. La coquetterie, c'est sûr. On s'occupe plus de son corps que de son âme. Alors pour cela, rappelez-vous le livre des Proverbes, chapitre 31 qu'on lit, cet épître qu'on lit à la messe des saintes femmes. à la fin de cette partie. Trompeuse est la grâce, vaine est la beauté. La femme qui craint le Seigneur, celle-là est digne de louange. Peut-être, alors, quand vous avez ces tentations de coquetterie, eh bien, pensez à ça. Oui, vaine est la beauté. Souvent, les psaumes aussi nous comparent, et c'est vrai, uniquement à une fleur. Une fleur, elle s'épanouit, puis elle sèche, et elle se flétrit. Donc, oui, nous sommes comme ça aussi. Alors, là-dessus aussi, je vous lis un texte sur la coquetterie, c'est un texte de Pie XII. Donc, du 28 septembre 1948, au Congrès des œuvres de la protection de la jeune fille. En dépit de sa désinvolture et parfois même de sa mentalité masculine, la jeune fille qualifiée de moderne, entre guillemets, garde, bon gré mal gré, les caractères innés, indélébiles de son sexe, son imagination, sa sensibilité, sa tendance, sinon à la vanité puérile, du moins assez souvent à la coquetterie plus périlleuse. Elle se laisse prendre au piège quand elle ne s'y jette pas d'elle-même tête baissée. Elle a l'illusion de l'expérience et se croit de ce chef supérieur aux jeunes filles des générations passées. Sous des dehors plus avertis, elle est souvent en réalité moins solidement instruite. Son expérience est superficielle, suffisante pour ternir sa délicatesse et sa fraîcheur, insuffisante pour la tenir en garde contre les roueries et les hypocrisies des séducteurs. Son expérience est aussi surtout négative, et elle ne lui découvre ni la grandeur, ni la beauté, ni les saines et robustes joies du rôle qui la réclame dans la famille et dans la société. Illusion de solidité et de force, illusion d'expérience et de prudence, l'une et l'autre sont l'aliment d'une présomption, à laquelle la nature même bien guidée n'est que trop portée. Elle croit pouvoir impunément tout lire, tout voir, tout essayer, tout goûter. À seulement entendre ou deviner un conseil, elle se cabre. Le simple soupçon d'une protection la révolte. Protection, cela signifie à ses yeux humiliation et asservissement. Elle ne se doute pas du besoin qu'elle en a pour la sauvegarde de sa dignité féminine et de sa noble fierté, pour son affranchissement de toutes les séductions, tromperies, flatteries, dont elle est inconsciemment la dupe et l'esclave. Je crois que c'est très, très bien vu. Jusqu'où peut nous mener la coquetterie, quoi. Il faut vraiment y prendre garde. Et puis évidemment, cet orgueil va engendrer la susceptibilité, la jalousie. La jalousie qui paraît-il aussi relativement féminine. Petite histoire. Est-ce que vous connaissez la seule personne qui n'était pas jalouse ? C'est Ève, parce qu'elle était seule. Bon, ça c'est une mauvaise langue, encore une fois. Ou alors aussi, cet orgueil peut entraîner la difficulté du pardon. On pardonne difficilement. Ou alors volonté de vengeance, manque de franchise. Attention, ça peut arriver même en confession. Ça. Vous voyez, si vous ne combattez pas l'orgueil... classique, qu'est-ce que le confesseur va penser de moi, quoi. Alors attention. J'ose rajouter, parce que ça rentre un petit peu là-dedans, le problème de la tête couverte à l'église. C'est d'abord, je pense que vous comprenez tout, il n'y a plus aucun problème pour vous, vous êtes bien, etc. Bon, bref. Seulement, il est bon d'en savoir les raisons. Peut-être parce que, bien sûr, vous le faites parce qu'il faut obéir, donc vous obéissez. Mais de temps en temps, vous n'en connaissez pas forcément la raison. Bon, c'est tout simplement d'abord Saint Paul qui le demande. Ouais, mais il était misogyne. C'est pas vrai. Donc, je vous dis ça parce que c'est des choses qu'on entend. Donc, des choses un peu invraisemblables. Bon, alors, c'est dans la première aux Corinthiens, si vous voulez les références, si vous ne savez pas. Donc, c'est chapitre 11, verset... 4 et suivant. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte fait affront à son chef. Toute femme qui prie ou prophétise la tête découverte fait affront à son chef, c'est exactement comme s'il était tondu. Si donc une femme ne met pas de voile alors qu'elle se coupe les cheveux, mais si c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou tondus, qu'elle mette un voile. Etc. Donc c'est une prescription déjà de Saint Paul, donc vous voyez, ça date pas d'hier. Et ensuite, je pense aussi, une des raisons, il y en a plusieurs, mais c'est effectivement l'humilité. Parce que, comme dit saint Paul, c'est une honte pour l'homme de prier la tête couverte. Effectivement, vous seriez choqué qu'un homme rentre dans l'église avec un chapeau sur la tête ou une casquette. Hein? Ça se fait pas. Donc l'homme se découvre. Pourquoi ? Par signe d'humilité. C'est effectivement, autrefois, pour un homme, c'était avoir une autorité que d'être couvert. Et d'ailleurs, vous avez dans l'église un qui est couvert, l'évêque. Oui, vous voyez, il a la mitre, il prêche avec une mitre, donc il est couvert parce que c'est signe d'autorité. Et il y a un moment où se découvre, bon, il enlève la mitre à l'autel, et même ensuite, il enlève même sa calotte. Il l'enlève au début de la préface, donc juste avant la consécration, et il va ne la remettre qu'après la communion, une fois qu'il n'y aura plus la présence réelle sur l'autel. Eh bien, on voit vraiment que c'est un signe d'humilité que de se découvrir. Donc l'homme se découvre. Eh bien, pour la femme, j'allais dire, c'est exactement un peu l'inverse. Mais c'est la raison aussi d'humilité. Parce que le bon Dieu vous a donné une certaine parure dans votre chevelure, c'est vrai, c'est une parure de la femme, mais on peut aussi en prendre orgueil. Eh bien, dans le lieu saint, c'est Dieu qui est présent. Donc, c'est l'humilité qui doit présider. Donc, ce qui peut être pour vous une source d'orgueil, eh bien, on le couvre. Donc, vous couvrez votre chevelure. Voilà une des raisons profondes, c'est de la raison d'humilité, qui est, si vous voulez, un peu la même pour l'homme qui, lui, au contraire, doit se découvrir. Mais ce principe est la même, elle-même. C'est un problème d'humilité. Voilà, donc pour guérir un petit peu cette concupiscence des yeux, eh bien, les remèdes, tout rapporter à Dieu, en reconnaissant qu'il est l'odeur de tout bien. Et ça aussi, saint Paul, dans son épître 1 aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7, nous le dit. « Qu'as-tu donc que tu n'aies reçu ? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Donc, toutes nos actions doivent tendre à la gloire de Dieu. Et puis, se rappeler, évidemment, que nous sommes néants et que notre nature est bien corrompue et qu'il nous faut toujours le secours de Dieu. Essayons de voir maintenant, peut-être un peu plus rapidement, maintenant, après avoir vu donc cette lutte contre la concupiscence, eh bien, voyons cette lutte contre le monde. Donc, encore une fois, le monde dont il est question ici, c'est l'ensemble de ceux qui sont opposés à Jésus-Christ et qui sont esclaves de la triple concupiscence dont nous venons parler. Alors, les dangers du monde, eh bien, ils peuvent être pour nous un grand obstacle au salut, à la perfection. Parce que le monde va chercher à attiser en nous, justement, ce feu de la concupiscence. Alors, tout d'abord, le monde cherche à nous séduire. Le monde cherche à nous séduire, d'abord par ses maximes, qui sont opposées à celles de l'Évangile. En effet, il va vanter le bonheur des riches, des forts, des violents, des parvenus, des ambitieux. Vous entendez toutes ces maximes. Chacun doit vivre sa vie, il faut bien que jeunesse se passe, il faut profiter de la vie, etc. Ensuite, il faut bien gagner sa vie, donc si on était scrupuleux en affaires, on ne pourrait jamais s'enrichir. Il faut pas être scrupuleux, donc tout le monde fait ça, donc on a bien le droit d'être un peu malhonnête. Donc tout ça, c'est les maximes qu'on entend à longueur de journée. Et puis il cherche à nous séduire aussi par l'étalage de ses vanités et de ses plaisirs. Réunions mondaines pour flatter la curiosité, la sensualité, voire même la volupté. Toutes ces réunions modernes. Là aussi, il est difficile de ne pas parler du problème des danses. Bon, c'est pareil, en soi, la danse est neutre. C'est une activité qui est, qui en soi, moralement, elle est ni bonne ni mauvaise. Il existe des danses, comment on appelle ça, régionales, qui sont très belles, quoi. Il y a de très belles figures de danse, etc. Mais c'est de la danse. C'est pas de la gesticulation. Par contre, il y en a d'autres, eh bien, effectivement, qui semblent n'avoir d'autre but que de favoriser les regards un peu lascifs, les enlacements sensuels, etc. Donc ça, non. Dans ce cas-là, elle porte au péché. C'est évident. Donc, dans ce cas-là, on se prive de ces danses-là. Aussi, c'est le problème du cinéma, évidemment, de la télévision. Alors là, là aussi, le mal que peut faire cette télévision. Je pense qu'il est impossible de regarder actuellement la télévision sans être blessé dans la vertu. Avec toutes ces publicités, ces films, cette désinformation, etc. Donc même, on voit le dégât que ça fait chez les enfants. Donc, sincèrement, supprimez-la. Ne la laissez pas dans votre famille. Ayez pitié de vos enfants. Ah non, non, il y a un code, elle est cachée, elle est fermée à clé, on regarde quand les enfants sont pas là. Quelle illusion des parents, j'ai vraiment... Ou alors les parents ont oublié qu'ils étaient enfants, ou alors ils connaissent pas la malice de leurs enfants, quoi. Parce que je suis désolé, nous on est confesseurs et puis on a confidence des enfants. Ils savent toujours trouver une clé. Ils savent toujours très bien quand vous êtes absent. Donc ça ils le savent. Ils savent très bien trouver les codes. Hop, ça marche. Non, vous faites pas des illusions, ne vous en faites pas. Ils sauront toujours la faire marcher votre télévision. Et puis ils sauront profiter que vous êtes en dîner. Voilà. Non, supprimez ça. Ensuite, maintenant, un peu nouveau aussi, mais ça commence à arriver, c'est le problème de l'Internet aussi. Et là, je vais vous dire, je pense, pour moi, Internet, c'est pire que la télé. C'est pire que la télévision, parce que la télévision, si vous voulez avoir un programme un peu salace, vous êtes obligé d'attendre l'horaire, quoi. Tandis que si vous voulez quelque chose un peu salace, avec Internet, vous l'avez tout de suite. Vous allez sur n'importe quel site, porno, tout ce que vous voulez, ça, vous trouvez tout ce que vous voulez là-dessus. Donc, j'allais dire, c'est beaucoup plus dangereux que la télévision. Alors, vous allez dire, mais l'ordinateur, on est obligé, aujourd'hui, c'est un instrument de travail, on est obligé de l'utiliser. Oui, c'est vrai. Alors, je pense, à mon avis, il faut prendre des règles très simples. Je pense que l'ordinateur doit rester un instrument de travail. Point. Donc, ça veut dire que concrètement, on le laisse à notre bureau. Ou alors, si on est obligé de travailler chez soi avec cet instrument-là, il est dans notre bureau, point. Mais il n'est pas dans la famille, c'est-à-dire que la famille n'utilise pas l'ordinateur. Et je pense que la règle, vraiment très simple, c'est l'ordinateur, on l'utilise comme un instrument de travail et non pas comme un instrument de détente. Et je pense que si vous prenez cette règle, alors c'est bon. C'est-à-dire que je fais ce que j'ai à faire, j'envoie mes emails, moi je fais mes trucs, mes tableaux, mes machins, et puis point. Et après, pour me détendre, je fais autre chose. Je prends un livre ou je vais ailleurs, mais je laisse l'ordinateur. Donc, je ne vais pas sur Internet pour, soi-disant, me distraire. Ensuite, toujours un peu dans ce problème du monde qui cherche à nous séduire, c'est évidemment le problème de la mode aussi. Problème de la mode. Et là, il y a Pidouze aussi, Papidouze a vraiment tout dit. Il y a de merveilleux textes sur la mode. Si tant pis, je vais être peut-être un peu plus long, je suis un peu désolé, mais je pense que c'est quand même important d'avoir des bonnes références. Là-dessus, c'est un discours qu'il a fait à la jeunesse féminine. Ah bah, c'est le même discours que tout à l'heure, donc du 22 mai 1941. Donc je pense que je vais quand même vous lire quelques passages sur la mode. Le mouvement de la mode n'a en lui-même rien de mauvais. Il naît spontanément de la sociabilité humaine, suivant l'impulsion qui incline à se mettre en harmonie avec ses semblables et avec les habitudes des personnes parmi lesquelles on vit. Dieu ne vous demande point de vivre en dehors de votre temps, de rester indifférente aux exigences de la mode, au point de vue de vous rendre ridicule en vous habillant à l'encontre des goûts et des usages communs de vos contemporaines, sans vous préoccuper jamais de ce qui leur plaît. Ça, c'est le principe. Évidemment, si vous vous habillez comme de manière habituelle comme une femme du XVIe siècle, évidemment, vous seriez ridicule. Bon, c'est ce que veut dire Pidouze. Hein. Lorsque les femmes portent des ornements décents, en harmonie avec leur état et leur dignité, lorsqu'elles suivent en cela avec mesure les coutumes de leur pays, alors se parer sera aussi un acte de cette vertu de la modération qui imprime une mesure dans la démarche, l'attitude, le vêtement et tous les mouvements extérieurs. Dans l'attitude à observer à l'égard de la mode, la vertu tient le juste milieu. Ce que Dieu vous demande est de vous souvenir toujours que la mode n'est ni ne peut être la règle suprême de votre conduite. Donc elle n'est pas et elle ne peut être la règle suprême de votre conduite. Que au-dessus de la mode et de ses exigences, il y a des lois plus hautes et impérieuses, des principes supérieurs et immuables qui en aucun cas ne peuvent être sacrifiés au gré du plaisir ou du caprice, et devant lesquels l'idole de la mode doit savoir abaisser sa fugitive toute-puissance. Ces principes ont été proclamés par Dieu, par l'Église, par les saints et les saintes, par la raison et la morale chrétienne. Ce sont les signaux marquant les limites au-delà desquelles on ne voit plus apparaître ni fleurir des lys, au-delà desquelles la pureté, la modestie, la dignité et l'honneur féminin n'exhalent plus leur parfum, mais où souffle et règne un air malsain de légèreté, de langage équivoque, de vanité audacieuse, de fatuité non moins dans le cœur que dans l'habillement. Ce sont ces principes que saint Thomas d'Aquin énonce touchant l'ornement de la femme et rappelle alors qu'il indique qu'elle doit être l'ordre de notre charité et de nos affections. Le bien de notre âme l'emporte sur celui de notre corps. Et nous devons préférer à l'avantage de notre propre corps le bien de l'âme de notre prochain. Vous voyez ? On doit préférer notre âme à notre corps et on doit préférer l'âme du prochain à notre corps. Dès lors, ne voyez-vous pas qu'il existe une limite qu'aucune forme de mode ne peut faire dépasser, une limite au-delà de laquelle la mode se fait source de ruine pour l'âme de la femme et pour l'âme d'autrui. Certaines jeunes filles diront peut-être que telle façon déterminée de se vêtir est plus commode et également plus hygiénique. Mais si elle devient pour le salut de l'âme un péril grave et prochain, elle n'est certainement pas hygiénique pour votre esprit. Il est de votre devoir d'y renoncer. Je passe. Et si pour un simple plaisir personnel, nul n'a le droit de mettre en péril la vie corporelle des autres, n'est-il pas encore moins licite de compromettre le salut, donc la vie même de leurs âmes? Si, comme le prétendent certaines, une mode audacieuse ne produit sur elles aucune impression mauvaise, que savent-elles de l'impression que les autres en ressentent? Qui les assure que les autres n'en retirent pas de mauvaises incitations? Vous ne connaissez pas le fond de la fragilité humaine, ni de quel sang corrompu ruissellent les blessures laissées dans la nature par le péché d'Adam. Oh, combien justement on a observé que si certaines chrétiennes soupçonnaient les tentations et les chutes qu'elles causent chez les autres par leur toilette et les familiarités auxquelles, dans leur légèreté, elles accordent si peu d'importance, elles s'épouvanteraient de leur responsabilité. Je crois que tout est dit. Tout est dit sur les principes qui doivent vous guider. Et donc, effectivement, attention au péché de scandale. C'est sûr. Et là aussi, le problème, c'est que, étant une femme, vous connaissez la psychologie de la femme, mais vous ne connaissez pas la psychologie de l'homme. Et l'homme, il est homme, il connaît la psychologie de l'homme, il ne connaît pas la psychologie de la femme. Donc, ce qui fait que de temps en temps, on ne se rend pas compte qu'on peut être source de tentation ou de déboire même pour les autres. Donc, c'est là où il y a, je pense, un certain devoir de savoir vous instruire. Instruisez-vous auprès de vos mères, voire de vos grands-mères qui connaissent mieux la nature humaine que vous lorsqu'on a 18, 20 ans, on ne connaît pas encore. C'est normal. Il faut savoir s'instruire et puis croire ce qu'on nous dit. Ou demander des conseils aussi à des prêtres. Donc attention aux péchés de scandale, ça c'est sûr. Comme dit très bien Pie XII, peut-être que pour vous, vous en ressentirez rien, ça vous sera totalement indifférent, mais pensez aux autres. Et les autres, s'ils ont des tentations, qui la faute? C'est son problème à lui. Et alors, quand vous avez un aveugle, vous mettez une pierre devant les pieds de l'aveugle et que l'aveugle tombe, c'est la faute de qui? De la pierre peut-être. Je vais pas rallonger, mais le problème des pantalons, enfin bref, toute la mode, vous connaissez ça. Mais aussi savoir, vous voyez, corrompre un petit peu la femme chrétienne, il faut bien dire que c'est aussi le rôle de nos ennemis, la franc-maçonnerie et compagnie. Et au début du siècle, effectivement, enfin début du siècle précédent, ils étaient donnés un peu comme mot d'ordre, sachons déshabiller la femme chrétienne, précisément pour corrompre la société. Et c'est intéressant de voir un peu dans l'histoire, il y a des choses qui sont quand même assez fantastiques. On trouve, par exemple, la Haute Vente. Donc la Haute Vente qui est une loge maçonnique, société secrète italienne. Voilà ce qu'elle disait le 18 janvier 1822. L'essentiel est d'isoler l'homme de sa famille. de lui en faire perdre les mœurs. Après l'avoir séparé de sa femme et de ses enfants, et lui avoir montré combien sont pénibles tous les devoirs, vous lui inculquerez le désir d'une autre existence. Quand vous aurez insinué dans quelques âmes le dégoût de la famille et de la religion, laissez tomber certains mots qui provoquent le désir d'être affilié à la loge voisine, etc. En 1870, le néo-malthusianisme préconise la limitation de la natalité par l'usage de méthodes contraceptives. 1870. 1875, le 17 novembre, le colonel Olcott, donc un franc-maçon, et Madame Blavatsky créent la Société théosophique avec un petit cercle d'occultistes dans le but d'étudier le spiritisme, l'hermétisme et les mystères de l'Orient. Madame Blavatsky accumulait les blasphèmes, tout comme elle poursuivait de sa haine l'Église catholique. Le plan d'action pour ce travail de sape était le suivant. Je vous rappelle la date, 1875. Premièrement, le culte de la déesse mère et la pratique des vertus femelles n'existant guère qu'aux Indes et au Tibet, il fallait mettre à la mode la religion hindoue. Et d'abord, ranimer la religion bouddhiste en Inde et en Extrême-Orient et s'employer à la libération des peuples orientaux. Deuxièmement, le mouvement théosophique étant à lui seul trop faible pour s'attaquer avec efficacité aux religions chrétiennes, musulmanes et juives, il fallait utiliser un appareil occulte, puissant, la franc-maçonnerie, pour lutter contre le dieu mâle en s'en prenant aux prêtres et à l'Église. Troisièmement, il était indispensable d'ouvrir l'Occident aux doctrines bouddhistes, d'y introduire la pratique du yoga, d'intéresser le public aux mystères de l'Orient. Quatrièmement, pour lutter contre la suprématie mâle, il était nécessaire, par la parole et par l'écrit, de répandre des idées opposées aux principes masculins, de défendre la paix universelle, de condamner la guerre, de prôner l'égalité des sexes, de rendre la femme libre de son corps. 1875. 1878, 20 avril. Un frère d'Heredia déclare à la loge, l'étoile polaire du Grand Orient, à propos de la maçonnerie, que ce qu'elle veut conquérir avant tout, c'est la femme, parce qu'elle est la dernière forteresse que l'esprit d'obscurantisme oppose au progrès humain. Donc, faut entendre l'esprit d'obscurantisme, la religion. 1896, donc ils essayent de moyen d'éviter les grandes familles. Donc un certain Robin commence à vendre des préservatifs, prépare une agence pour l'Union libre, un syndicat de prostituées, fait des conférences dans les loges maçonniques, etc., pour prêcher la contraception. Donc déjà 1896. 1911, une certaine Madeleine Pelletier, médecin, lance un appel pour la liberté de l'avortement. Elle publie en 1911, un livre qui s'appelle « L'émancipation sexuelle de la femme », ouvrage dans lequel elle réclame le droit de la femme à l'amour physique hors du mariage et le droit à l'avortement. Au moyen de cette argumentation toujours utilisée, l'enfant qui est né est un individu, mais le fœtus au sein de l'utérus n'en est pas un, il fait partie du corps de sa mère. 1911. 1919, règle pour la révolution communiste, énoncée à Düsseldorf. Faire disparaître toutes les lois réfrénant l'obscénité en les appelant une censure et une violation de la liberté de parole et de presse. Abaisser les normes morales en poussant la pornographie et l'obscénité dans les livres, les journaux illustrés, le cinéma. Présenter l'homosexualité et la promiscuité des sexes comme normales, naturelles et bonnes pour la santé. Discréditer la famille comme institution, favoriser l'amour libre et faciliter le divorce. Mettre en relief la nécessité d'élever des enfants loin de l'influence limitative des parents. Attribuer les préjugés, les blocages et les retards des enfants à l'influence répressive des parents. Donc 1919. Donc tout ça, si vous voulez, pour bien se dire, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc c'est quand même, il y a quand même un plan voulu. Alors ne tombons pas dans le panneau, tout simplement. Alors le remède, eh bien, plaçons-nous tout simplement, encore une fois, en face de l'éternité. Et regardons la lumière à la lumière de la foi. Donc si le monde nous fait peur, s'il nous séduit, eh bien rappelons-nous l'opposition entre le monde et Jésus-Christ. Donc il faut absolument faire notre choix, parce que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Or Jésus, bien sûr, est la sagesse infaillible. Donc c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle, et c'est le monde qui se trompe. Qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu, nous dit Saint Jacques. Donc en pratique, bien sachez, lisez souvent les évangiles pour vous imprégner de l'esprit de notre Seigneur. Évitez évidemment les occasions dangereuses, les fausses amitiés, tout cela. Sans doute, évidemment, on est obligé de se mêler au monde dans une certaine mesure, mais on doit se préserver de l'esprit du monde. Même si on doit se mêler au monde, sachons nous préserver de l'esprit du monde, en vivant dans le monde comme n'étant pas de ce monde. Parce que Jésus a demandé à son Père non pas d'ôter ses disciples du monde, mais de les préserver du mal. Et saint Paul veut que nous usions du monde comme n'en usant pas. Voilà, donc la vie chrétienne, vous le savez, est une lutte, un combat spirituel, nous en avons parlé. Donc il faut déraciner ce vieil homme pour laisser croître l'homme nouveau. Et tout cela se fera avec la grâce de Dieu que l'on reçoit par la prière, prière et sacrement, évidemment, sacrement de pénitence, Eucharistie. Donc ne nous décourageons pas de la longueur du combat. Prions la Sainte Vierge, modèle par excellence de la femme chrétienne, et qu'elle nous aide, eh bien, qu'elle vous aide à faire triompher en vous toujours davantage la femme chrétienne au détriment de la femme mondaine. Voilà, nous pouvons nous rendre à la chapelle.